Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
À Strasbourg, au Musée d'Art Moderne, se tient jusqu'au 12 février une exposition intitulée « L'Europe des esprits ou la fascination de l'occulte 1750-1950 ». Un thème fait pour donner des idées évidemment à Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. L'occultisme et le dialogue avec les esprits sont un petit peu passés de mode, me semble-t-il, en nos temps très terre-à-terre. Mais le fait est que dans les deux siècles passés, et même un peu davantage, ils étaient devenus un véritable passe-temps de société. Le spiritisme a connu son apogée, on peut dire vers le milieu du 19e siècle, c'est ce que nous allons constater cet après-midi.
Alors peut-on dire, Franck, que c'est Victor Hugo qui a donné ses lettres de noblesse au phénomène des tables tournantes?
En tout cas, il y a contribué. À Jersey, où le grand poète se trouvait en exil, vous savez, on a fait parler les Guéridons de 1853 à 1855. Je cite Louis Powell à ce sujet. Les deux années de tables tournantes à Jersey marquent le passage de Hugo poète à Hugo prophète. Ce sont les deux années déterminantes de sa destinée spirituelle. Il va ensuite être en proie véritablement à la religion des tables, bien qu'il garde le secret sur ces deux années médiumniques.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
En cette fin d'été 1843, Victor Hugo achève de longues vacances itinérantes en compagnie de sa maîtresse, je devrais dire de sa compagne de cœur, la savoureuse et tendre Juliette Drouet. Il a 41 ans, il est académicien et célèbre, ami du roi Louis-Philippe, mais dans les mois précédents, les déceptions ne lui ont pas été épargnées. Notamment, sa pièce « Les Burgraves », qui a été montée au printemps par les comédiens français, a été un échec. Alors, les vacances avec Juliette ont conduit les voyageurs en Espagne et dans les Pyrénées, ces Pyrénées qu'ils ont amoureusement visitées avec l'esprit romantique qui peut les caractériser. Ils remontent à présent vers Paris, ils traversent la Saintonge, puis l'Aunis où ils se trouvent le 8 septembre. Ce jour-là, ayant remonté la Charente depuis Saintes en bateau à vapeur, les voilà qui débarquent à Rochefort. De Rochefort, ils vont traverser les marais salants, ils font une incursion dans l'île d'Oléron où ils vont passer la nuit, et le lendemain, ils reviennent par Marennes jusqu'à Rochefort, où la diligence pour La Rochelle ne doit partir que dans la soirée. Ils ont donc un peu de temps à tuer, le temps d'aller se rafraîchir au Café de l'Europe, qui aujourd'hui est devenu le Café de la Paix. Je cite Jean-Marc Ovas dans la biographie très détaillée qu'il consacre à Victor Hugo. « Il est 2h30, nous dit-il. La grande salle est vide, à l'exception de la dame qui tient le comptoir à gauche et d'un jeune homme qui fume à côté de l'entrée. Les voyageurs s'installent tout au fond, sous le renfoncement d'un escalier en colimaçon. Ils commandent une bouteille de bière et prennent les journaux. Juliette ouvre le charivari. Victor Hugo parcourt le siècle. Et là, eh bien là, c'est soudain le cataclysme, la fin du monde. » Juliette, relevant à peine les yeux de son journal, a vu son Toto pâlir, blêmir, défaillir presque. Ses traits se sont déformés. La gorge sèche, Victor Hugo répète seulement « Voilà qui est horrible !» Ce maudit journal, bien froidement, bien insidieusement, vient en effet de lui apprendre un terrible accident, un drame tout personnel, que dis-je, la mort par noyade, à Villequier, de sa chère fille Léopoldine. L'article se termine par ces mots. Madame Victor Hugo a appris ce matin au Havre qu'elle habite depuis quelque temps avec ses deux autres enfants le terrible coup qui la frappe dans ses affections de mère. Elle est repartie immédiatement pour Paris. Monsieur Victor Hugo est actuellement en voyage. On le croit à La Rochelle. Le poète est terrassé, anéanti. Grâce au journal de voyage achevé par Juliette, on sait qu'il va se mettre à marcher, marcher, marcher comme un spectre au-delà des remparts de Rochefort. Et puis il revient, le regard dans le vague, la mâchoire serrée. Il revient attendre sa diligence. Dans une lettre envoyée de La Rochelle, justement, à sa chère amie, la poétesse Louise Bertin, Hugo confiera sa douleur. « J'aimais cette pauvre enfant plus que les mots ne peuvent le dire. » Vous vous rappelez comme elle était charmante, c'était la plus douce et la plus gracieuse femme, oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Elle était trop heureuse, elle avait tout, la beauté, l'esprit, la jeunesse, l'amour. Ce bonheur complet me faisait trembler. J'acceptais l'éloignement où j'étais d'elle. Afin qu'il lui manquât quelque chose, il faut toujours un nuage. Celui-là n'a pas suffi. Dieu ne veut qu'on ait le paradis sur la terre. Il l'a reprise. Oh, mon pauvre ange, dire que je ne la reverrai plus. La souffrance du père éplorée se double d'un regret. Avant que Hugo ne parte en voyage, Léopoldine l'avait prié, elle l'avait supplié même de venir passer quelques jours avec elle. Et il avait passé outre, et maintenant il le regrette amèrement. Les mois qui vont suivre seront pour Hugo ceux d'une dépression qui le met presque hors d'état d'écrire, autant dire pour lui de respirer, de vivre. 3 années durant, il ne va faire, et c'est déjà beaucoup, que se survivre à lui-même. Il est nommé pair de France en 1845. Il n'en est pas moins pris quelques mois plus tard en flagrant délit d'adultère. Décidément, tout ça commence à ressembler à une descente aux enfers. Le dramaturge, à cette époque, et même le romancier, cède le pas devant l'homme politique qui, de plus en plus ouvertement, se révèle républicain. La révolution de 1848 le voit nourrir de grands espoirs. Il soutient pendant un temps la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence. Soutien temporaire et conditionnel, faut-il le préciser. D'ailleurs, lorsqu'en décembre 1851, le nouveau président fomente son fameux coup d'État et va fonder le Second Empire, eh bien Hugo se retrouve évidemment dans le camp des opposants. Il viendra bientôt en tête des proscrits du nouveau régime. La famille s'exile d'abord en Belgique, et puis dès l'été 1852, on gagne les rivages fleuris de Jersey. Jersey, c'est cette île qui est la plus grande et la plus méridionale des Anglo-Normandes, à 25 kilomètres seulement du continent. Elle a l'air encore très française, seulement on y parle anglais, et la couronne britannique maintient sur place un lieutenant-gouverneur. Les Hugo s'installent à Marine Terrace, une cabane qu'on cède son nouveau locataire, mais dont l'océan baigne le pied. À cette époque, la villa se compose d'un modeste rez-de-chaussée avec des petits salons, une cuisine, une serre et une basse-cour, et puis 2 étages peuplés de chambres, je cite Hugo, propres, froides, meublées sommairement, repeintes à neuf, avec des linceuls blancs aux fenêtres. Toujours quelque chose de funèbre, il y aura définitivement dans tout ce que Hugo dira et produira par la suite. Cet aspect funèbre, tout l'intérêt des lieux réside évidemment dans la proximité des flots, dans leur murmure, si cher au poète, un murmure qui évidemment, dès qu'approche l'hiver, peut se muer en de formidables colères.
Funèbre d'Hector Berlioz sur Europe 1, Franck.
Alors, Julia, tout de suite à Jersey, on peut dire que Hugo va reprendre le travail. Il se met même à travailler assidûment. Il faut dire que sur l'île, les distractions ne sont pas très nombreuses. L'isolement y est réel, même si c'est un isolement relatif, parce que le poète a quand même sa famille, et puis il a fait venir Juliette, évidemment, Juliette toujours fidèle au poste. Et puis, il lui arrive de recevoir des amis parisiens, et notamment, il va recevoir la visite de Madame de Girardin, vous savez, Delphine de Girardin, l'épouse du grand journaliste, en septembre 1853, ce qui veut dire qu'Hugo est à Jersey depuis un an, mais que son âme est en exil depuis la mort de Léopoldine, donc exactement depuis 10 ans. En septembre 1953, donc, Delphine débarque à Jersey avec dans ses bagages l'air de Paris, les derniers potins sur le méchant empereur, l'usurpateur selon Hugo, qu'elle a surnommé Boustrapa, et puis les dernières modes du continent à commencer par celle des tables tournantes. Des tables parlantes, devrais-je dire, pour être encore plus exact. Mais oui, Delphine de Girardin s'adonne, comme toutes les dames de Paris à l'époque, ou presque, s'adonne au spiritisme. « Il me faut un guéridon plus léger », dit-elle après un premier essai qui s'est révélé très infructueux. « Il lui faut une petite table à 3 pieds avec un plateau rond. » Alors on la voit qui court les boutiques de Lille en vain, et puis elle finit par dénicher son bonheur dans la vitrine d'un marchand de jouets. Le guérison n'est pas tout à fait idoine, mais ça devrait faire l'affaire. Et voilà que les séances commencent. Il est vrai qu'il faut meubler hein, ces longues soirées au bord de la mer. Hugo se tient un peu à l'écart, il hausse les épaules de temps en temps, Nous sommes précisément le dimanche 11 septembre 1853. Je cite Louis Powels dans ses passionnantes « Histoires magiques de l'histoire de France ». On a placé, dit-il, le guéridon sur une table. Un invité, le général Leflot, assiste Delphine. Il pose les mains, il se concentre. Si la table frappe un coup, c'est A, deux coups, B, etc. bien sûr. La table oscille sur son pied à trois griffes, c'est confus. Vacry, qui donc sert de secrétaire, remplace le général. Et puis c'est Charles, le fils de Victor. Or, sous les mains de Charles Hugo, l'évasif, le taciturne, nous dit Louis Powels, la table se met à vibrer. Elle frappe. Un esprit commence à se manifester. Alors il se nomme fille. Alors on lui dit, mais comment t'appelles-tu ? Morte. Donc c'est l'esprit d'une jeune femme morte. Une jeune femme morte accidentellement, en France. Et là, bien entendu, le cœur de tout le monde se serre. On ne peut que penser à Léopoldine, celle qui s'est noyée, à Villequier. On se met à pleurer. Évidemment, dans son fauteuil, Victor Hugo a dressé l'oreille. Il a la gorge serrée. Les doigts de Charles effleurent à peine le petit guéridon, nous dit Powels, le guéridon dont le trépied frappe des coups nets et précipités. Es-tu heureuse ? Oui. Où es-tu ? Lumière. Que faut-il faire pour aller à toi ? Aimer. As-tu quelque chose à nous dire ? Oui, quoi ? Souffrez pour l'autre monde. Et le dialogue comme ça se développe. Il va reprendre le lendemain dans la journée, puis dans la soirée et dans les soirées qui suivent. Et nous dit Louis Powels, quand Delphine de Girardin quitte Jersey, elle laisse derrière elle le monde des morts tournoyant autour d'un guéridon pour enfants et la prescience d'une religion nouvelle dans l'esprit du plus grand poète français. Désormais, et pendant 2 ans, Victor Hugo et son entourage vont faire parler la bouche d'ombre. Alors pour être tout à fait honnête, il faut vous dire que le poète, dans les premiers temps, est quand même pas très convaincu. Je dirais même que parmi les participants, qui presque chaque soir maintenant s'installent autour du guéridon, il est évidemment le moins convaincu. Évidemment, la présence de Léopoldine pour ce 10e anniversaire de sa mort l'a profondément bouleversé. Il aimerait beaucoup croire à ce moyen de communiquer avec elle. Il ne s'en montre pas moins très réservé à l'égard du phénomène à l'œuvre. Par exemple, lorsque son fils Charles lui montre le résultat d'une séance à laquelle Victor n'a pas assisté, Charles est tout étonné par ce qu'il a entendu, enfin ce qu'il a noté plus exactement. Voilà ce que lui répond son père. Bon, c'est tout simplement ton intelligence quintuplée par le magnétisme qui fait agir la table et qui lui fait dire ce que tu as dans la pensée. Et puis, le temps passant, les expériences se renouvelant sans cesse avec parfois de très beaux résultats, Victor Hugo se laisse ébranler peu à peu. « Je crois absolument au phénomène des tables, » dit-il à Pierre Leroux, qui est exilé comme lui. « Seulement, je n'affirme pas que ce soit en effet Jeanne d'Arc, Spartacus, César, Tibère qui y apparaissent. Il est possible que ce soit un esprit qui prenne ces noms pour nous intéresser. » Ah oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que grâce au guéridon, Victor a trouvé un moyen de parler non seulement à sa fille disparue, Léopoldine, mais très vite, il s'est mis à entrer en conversation avec Jules César, avec Jeanne d'Arc, avec Shakespeare, avec le Christ lui-même. Et oui, que voulez-vous, on ne changera pas Victor Hugo.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 au phénomène des tables tournantes lors de l'exil de Victor Hugo à Jersey, Franck.
Alors ce qui est frappant quand on lit ce livre des tables de Jersey, c'est que c'était 4 cahiers, d'ailleurs dont plusieurs ont disparu aujourd'hui, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est que les esprits s'y expriment tout à fait dans le style de Hugo. Voici par exemple ce que Charles, dont je m'empresse de dire qu'il n'est pas du tout le génie qu'on pourrait supposer, hein. Charles n'a pas le talent de son père, il n'en a même pas le quart. Voici ce que Charles prend sous la dictée de la table, semble-t-il. « Esprit qui veut savoir le secret des ténèbres et qui, tenant en main le terrestre flambeau, vient furtif à tâtons dans nos ombres funèbres, crocheter l'immense tombeau. » Rentre dans ton silence et souffle tes chandelles. Rentre dans cette nuit dont quelquefois tu sors. L'œil vivant ne lit pas les choses éternelles par-dessus l'épaule des morts. Voilà. Ça ressemble quand même à du Victor Hugo, à s'y méprendre. Alors, est-ce qu'il faut en conclure qu'il s'agirait d'imprégnation mentale, de transmission de pensée ou peut-être de réécriture distraite de Victor Hugo par-dessus l'épaule de son fils cette fois ? Je ne sais pas. Je voudrais vous lire quand même, pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblent les séances, je voudrais vous lire un extrait d'une des toutes premières de ces séances de Jersey. C'était celle du mardi 13 septembre 53, et c'est Victor Hugo lui-même qui, cette fois, interroge la table. Oh, disons qu'il se sera laissé faire douce violence. Qui es-tu ? Demande Hugo. La réponse, l'ombre. Es-tu l'ombre de quelqu'un ? Réponse, du sépulcre. Victor Hugo. Peux-tu nous dire ton nom ? Non. As-tu une communication à me faire ? Crois. Victor Hugo demande à quoi ? À l'inconnu. Mais qu'est-ce que l'inconnu ? Le vide plein. Victor Hugo dit : parle toi-même. Et voilà la réponse : la mort est le ballon de l'âme. Le ballon de l'âme. Victor Hugo. Le monde auquel tu appartiens est-il la continuation de cette vie ? Non. Cependant, tu as vécu ? Non. Qui es-tu donc ? L'ombre. L'ombre de quelqu'un qui a vécu ? Non. Dois-tu vivre ? Non. Es-tu un ange ? Oui. L'ange de la mort ? Oui. Pourquoi viens-tu ? Pour causer avec la vie. Qu'as-tu à dire ? Esprit, venez ici, il y a des voyants. Les esprits auxquels tu t'adresses, c'est nous ? Non. Alors c'est nous qui sommes les voyants ? Oui. Toi, nous vois-tu ? Non. Les esprits que tu appelles ici, ont-ils vécu de la vie des hommes ? Et là, il n'y a pas de réponse. Long silence auquel Victor Hugo met fin. Peux-tu répondre ? Non. Et là, la table se met à bouger, à s'agiter dans tous les sens. Puis-je te calmer ? Demande Hugo. Non. Es-tu un esprit heureux ? Le bonheur n'est qu'humain, il suppose le malheur. Tu parles ainsi, dit Victor Hugo, parce que tu es dans l'absolu ? Oui. Parle de toi-même. L'infini, c'est le vide plein. Entends-tu par là que ce que nous appelons le vide est rempli par le monde des esprits ? Parbleu. Drôle de réponse, je trouve, parbleu pour un esprit. C'est un esprit du 19e. Victor Hugo. Ombre du sépulcre. Tu peux donc être gai ? Non. Parle. Use ton corps à chercher ton âme. Voilà la réponse. Victor Hugo. Es-tu seul des esprits ici ? Je suis tout seul et je suis partout. Évidemment, tout le monde autour de Victor Hugo, et notamment parmi ses visiteurs, n'était pas d'accord avec ce qui se passait là. Voici ce que Hugo écrira dans le journal de l'exil à la date du 27 avril 1954 comme une sorte d'apologie des pratiques auxquelles il a fini, bon gré mal gré, par s'adonner même avec une certaine fureur. Le phénomène des tables parlantes, écrit-il, n'amoindrit pas le XIXe siècle, il l'agrandit. Le phénomène des tables parlantes n'amoindrit pas la liberté humaine et donne des ailes à la foi humaine. Ces esprits nous parlent. Tu le nies ? Pourquoi nier l'évidence ? Voici les faits. Un jour, il prend à n'importe qui l'idée de mettre les mains sur une table. La table se lève et remue. On s'exclame « Bah, dit la science, vous êtes des enfants !» La table tourne par un phénomène physique. On renouvelle l'expérience. Cette fois-ci, la table frappe des coups et s'arrête. « Diable !» dit celui qui tient la table. Cette table s'arrête. Puis il lui prend l'idée de compter l'alphabet. Cette table parle. Dit celui qui la tient, elle parle. « Ah, la table parle, dit la science, ceci me dérange. De par le bon sens, défense aux tables de parler. » Mais malgré le bon sens, la table parle. Elle parle sous les mains de Madame de Girardin, elle parle sous les mains de Monsieur de Saucy. Sans dire de grandes choses, elle dit des choses fort particulières. Et sous les mains de Charles, elle dit des choses sublimes. Pourquoi nier ce monde intermédiaire ? Pourquoi trouver surnaturel ce qui est naturel ? Pour moi, conclut Victor Hugo, le surnaturel n'existe pas, il n'y a que la nature. Oui, il est naturel que les esprits existent.
extrait sur Europe 1 du trio pour piano Fantôme de Beethoven.
Okay. Bonjour Jean-Marc Ovas, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'auteur chez Fayard d'une très volumineuse biographie de Victor Hugo en 3 volumes, dont les 2 premiers sont déjà parus et dans laquelle je me suis permis de puiser à loisir pour la première partie de cette émission. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le phénomène des tables tournantes de Jersey dérange, ennuie, agace les chercheurs et les biographes qui se consacrent à Victor Hugo ?
Non, il fascine plutôt qu'il agace, je crois. Mais il est certain qu'il reste une part d'impondérable qui est très étrange pour quelqu'un qui est un esprit rationnel. Vous avez bien montré les réticences initiales de Victor Hugo lui-même, puis
son emballement,
on peut dire ça, presque sa conversion. Tout en sachant qu'il y a aussi un texte où il dit vraiment les tables bâtissent un système religieux auquel je pense depuis 25 ans. Donc voilà, il y a aussi...
Est-ce qu'il n'y aurait pas là finalement la médiation nécessaire à l'accouchement d'une pensée spirituelle à travers lui ou à travers ses plus proches?
À travers lui et ses plus proches, tout à fait. Vous avez insisté sur le rôle de Charles avec raison. Hein. C'est Charles qui est le plus emballé par...
Son fils Charles,
qui est le plus emballé par ce jeu de société. C'est aussi un jeu de société.
Bien sûr, oui.
Et donc oui, l'interaction entre le père et le fils joue certainement beaucoup pour ça. Bon, il y a les autres participants aussi, mais surtout ça, et son épouse aussi.
Tout s'arrête en 1855, d'un seul coup la table ne parle plus, le guéridon est rangé au rayon des accessoires inutiles.
C'est difficile d'expliquer pourquoi ils arrêtent. Alors, il y a longtemps eu l'explication qu'un des membres participants était devenu fou, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il avait déjà des problèmes avant l'achèvement de cette période des tables. C'est d'ailleurs un personnage qui s'appelle Jules Alix et qui était fou depuis longtemps et qui le sera pendant longtemps encore. Bref, un personnage amusant. Donc, ce n'est pas forcément la bonne raison. Peut-être que les tables avaient dit tout ce qu'elles avaient à dire. Ça, c'est une possibilité aussi. Mais on a du mal à le dire, puisque, comme vous l'avez rappelé aussi, on ne possède pas tous les procès-verbaux, tous les documents nécessaires encore pour savoir.
Alors, Victor Hugo reste aujourd'hui la personnalité la plus célèbre parmi celles qui se sont longuement penchées sur le phénomène des tables parlantes, mais il y en a eu beaucoup d'autres au XIXe siècle. On peut dire que c'était quand même dans l'air du temps. Il y a là toute une... On est au cœur même du romantisme, dans ce qu'il peut avoir parfois de sombre ou de très peu lumineux.
Oui, bien sûr, c'était une activité très partagée. Simplement, évidemment, comme souvent, quand on est chez Hugo, ça prend une autre dimension.
Voilà. Il lui a donné une dimension sublime parce que je crois, et on ne le dira jamais assez, d'habitude je fais toujours des déclarations d'amour à Corneille, enfin accessoirement pour une fois je vais en faire à Victor Hugo, il reste quand même un de nos très grands auteurs. Nous revenons avec vous Jean-Marc Ovas dans un instant sur sa vie bien entendu, sur tout ce que ces tables lui auront finalement appris et sur la fin de vie paradoxalement assez spirituelle du grand poète.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous retrouvons Franck avec son invité sur Europe 1, Jean-Marc Ovas, qui est directeur de recherche au CNRS, biographe de Victor Hugo. Il est également directeur du Centre d'études des correspondances et journaux intimes à l'Université de Bretagne occidentale.
Et c'est un sujet qui fait réagir nos auditeurs. Julia, je ne peux pas tout citer, mais Mathieu nous fait remarquer que l'arithmétique pourrait démontrer de manière simple qu'il y a un problème avec les messages reçus à Marine Terrasse, nous dit-il. Sachant qu'un coup est équivalent à la lettre A, 2 à la lettre B, etc. Calculez, nous dit Mathieu, le temps nécessaire pour obtenir les longs textes rendus célèbres par Hugo. C'est techniquement impossible. Un chercheur, Jean de Mutigny, dans Victor Hugo et le spiritisme, c'est un ouvrage paru chez Nathan, aurait expliqué le cas Hugo comme un cas de paraphrénie fantastique. Alors là, on va assez loin dans l'induction philosophique. Un cas dans lequel Hugo donc ferait dire tout simplement à la table ce qu'il aurait aimé dire lui-même. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Jean-Marc Ovas ?
Oui, c'est une objection ancienne et elle se trouve déjà dans le Grand Larousse du 19e siècle où il dit « Imaginez si la table devait parler en polonais, le problème que ça poserait, parce que c'est un coup par lettre. » Mais l'objection tombe quand on regarde les quelques cahiers qui sont restés, mm-hmm. On voit bien les lettres formées une par une. Alors si on calcule effectivement lettre par lettre par rapport à la durée des séances, puisqu'on les a, les durées, on se rend compte qu'il faudrait 2 secondes par lettre, ce qui effectivement est très difficile, voire voire impossible. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est comme dans les textos des téléphones d'aujourd'hui, une fois que le mot est commencé, dès qu'on a compris le mot, on passe au suivant. Et après, ils remplissent les cases. Donc moi, je crois qu'il faut voir ça comme ça.
Les cahiers en question étaient en partie recopiés par Juliette, évidemment, c'était elle, la copiste attitrée.
Ça dépend, mais on a quelquefois les vraies versions originales, où on voit les grosses lettres qui sont tracées avec les hésitations et les mots qui ne sont même pas décomposés en mots encore. Le verbe, le nom, tout est comme un jeu de lettres, hein, où après il faut couper les lettres pour retrouver le texte.
Alors nous disions à l'instant que cette mode des tables parlantes était répandue à travers la France et l'Europe en ce milieu du 19e siècle. Nous avons en ligne Serge Fauchereau, historien de l'art, qui est le commissaire de cette exposition qu'on peut voir au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg jusqu'au 12 février prochain. Donc si vous êtes dans l'Est de la France ou si vous avez l'occasion de vous rendre à Strasbourg, courez voir l'Europe des esprits ou la fascination de l'occulte. C'est donc une évocation de tous ces phénomènes sur deux siècles de 1750 à 1950. Bonjour Serge Fauchereau.
Bonjour.
Vous avez eu, je dirais, une bonne idée, parce que c'est un sujet que l'on croise constamment lorsqu'on étudie ces deux siècles et qui finalement est assez rarement traité pour lui-même.
Oui, en effet, je voulais faire un peu la contrepartie du siècle des Lumières,
oui.
Tel qu'on nous l'a présenté, la raison, la naissance des théories scientifiques rationnelles, encore une fois.
C'est aussi le siècle
d'une part d'ombre.
C'est aussi le siècle de Saint-Germain, de Cagliostro et de Mesmer, après tout.
Et de Swedenborg.
Et
oui.
De Swedenborg, exactement. Oui. Donc, d'où vient que l'intérêt, qui est un intérêt alors lui très ancien, qui remonte bien avant le Moyen-Âge même, l'intérêt pour les phénomènes occultes, devienne, au XVIIIe et au début du XIXe siècle, un phénomène de société?
Je crois que c'est par réaction contre la rationalisation trop grande, difficile à absorber par le plus grand nombre, qui se produisait dans le monde intellectuel de l'époque.
Eh oui, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est que les plus grands savants, je pense évidemment à un très grand vulgarisateur, mais qui a aussi été un grand savant comme Camille Flammarion,
oui,
vont s'intéresser personnellement au phénomène.
Oui, ben c'est tout à fait une démarche quand même scientifique de s'intéresser à quelque chose qu'on ne comprend pas et de s'efforcer de le comprendre.
Mm-hmm.
Le problème, c'est que...
On est positiviste au 19e, mais on est curieux avant tout.
Absolument.
On a encore l'esprit ouvert, si
oui,
je puis
oui,
dire.
Oui, et ça va durer jusqu'à Curie et des gens comme cela, mais un philosophe comme Bergson s'intéressait aussi à ça, avec beaucoup de circonspection, mais il s'y intéressait quand même...
J'ai beaucoup d'admiration, moi, pour ces grands esprits du 19e et du tout début du 20e siècle qui étaient capables d'accumuler des sommes de savoir extraordinaires et de s'aventurer dans des domaines parfois très différents. Ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart de ces grands esprits ont eu une période, si je puis dire, spirit. Est-ce que c'est le terme qui convient d'ailleurs? Peut-être pas.
Oui, je crois. Le spiritisme et la métapsychique sont des choses assez voisines parfois. Ce qui nous surprend, c'est quand des gens qui sont extrêmement prudents sur le plan strictement scientifique, je pense à William Crookes, l'inventeur du tube du même nom, se laissent tromper par une pseudo médium. Vous voyez, ça nous étonne.
Oui, c'est vrai que c'est assez inattendu. On peut visiter donc votre exposition jusqu'au 12 février. Dites-nous en un mot comment elle se présente physiquement. Je ne l'ai pas visitée, moi, en ce qui me concerne.
Oh bien, il faut du temps pour la visiter parce qu'il y a quelques 800 numéros.
Le musée est très grand, hein, déjà.
Le musée est très grand, c'est sur deux étages.
Mm-hmm.
Il y a une partie, un tout petit hors-d'œuvre médiéval, parce que bien sûr, la ville est très ancienne et un point de concours de toutes sortes de choses. Donc il y a... Dürer, Baldungrin et compagnie.
Mm-hmm.
Ensuite, nous avons tout le grand étage qui est consacré donc aux arts plastiques.
Mm-hmm.
Et donc, il y a là, on commence avec William Blake, Novalis, Fuseli, Goya, enfin tous les grands noms qu'on attend.
On rêve en voyant tous ces tableaux, bien entendu.
Oui, oui, d'autant qu'on a eu de très grandes pièces et des choses rarissimes que nous sommes allés chercher dans les pays peu connus, d'où nous vient une grande partie cet occulte, c'est-à-dire les pays baltes et les pays scandinaves.
Alors, pour tous ceux qui ne pourraient pas se rendre à Strasbourg, vous avez publié un somptueux catalogue qui s'appelle « L'Europe des esprits ». C'est donc le titre de cette exposition, « L'Europe des esprits » ou « La fascination de l'occulte ». 1750-1950, c'est effectivement un beau livre, au moins autant qu'un catalogue d'exposition. Merci beaucoup Serge Fauchereau.
Merci à vous, au revoir.
Est-ce qu'on peut dire, lorsqu'on parle, si l'on revient à Victor Hugo, à Jersey et à nos tables, est-ce qu'on peut dire, Jean-Marc Kovas, que ce phénomène aura joué un rôle dans la maturation de l'esprit hugolien ? Est-ce que Victor Hugo est sorti différent de cette expérience ?
Oui, on en a des traces très notables, à commencer par le premier grand recueil de poèmes, le plus grand de ces recueils, qui publie dès qu'il arrive à Guernesey, mais enfin, il date presque en entier de la, enfin, pour beaucoup de la période de Jersey. Ce sont les Contemplations, dont la sixième partie s'appelle Au bord de l'infini, et c'est le livre mystique, le livre philosophique, le livre religieux, dans lequel le plus grand poème, vous avez cité La bouche d'ombre tout à l'heure, s'appelle Ce que dit la bouche d'ombre, qui est en fait une métaphore, mais qui est aussi un dolmen à Jersey. Et ce poème, Ce que dit la bouche d'ombre, a été commandé à Victor Hugo par la table. On l'a dans les séances où il lui dit il faut parler des animaux horribles dont on ne parle jamais, les cloportes, les araignées, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais ? Et puis, toute la théorie métaphysique de. Qui va de l'animal, de la pierre jusqu'à l'ange, avec dans une chaîne d'où, si vous êtes bon, vous sortirez meilleur après, etc. Mais les tyrans se retrouvent dans des cailloux réincarnés plus tard, etc. Tout ça, c'est le grand poème « Ce que dit la bouche d'ombre » qui a été, ce sixième livre des Contemplations et ce poème en particulier, assez mal reçu au moment où le livre est sorti. Les contemporains n'ont pas compris, bien qu'ils fussent déjà imprégnés par les tables,
il n'avait pas forcément suivi le même chemin que Victor Hugo. Non. Puisque nous parlons d'Hugo et de son exil, il faut signaler que cette année, en 2012, on va célébrer le 150e anniversaire des Misérables. Nous y venons dans un instant.
Un extrait sur Europe 1 de l'ouverture de la muette de Portici, Franck.
Et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marc Kovas, directeur de recherche au CNRS et biographe de Victor Hugo. Le troisième tome va paraître bientôt. C'est une biographie extrêmement détaillée. C'est un régal. Je me suis amusé ce matin à aller chercher, vous savez, des petits détails de la vie d'Hugo. On a non seulement le détail, mais systématiquement toutes les circonstances. C'est un magnifique instrument de travail et aussi un instrument de rêve, disons-le. Parce que c'est une vie qui est quand même tout à fait hors du commun. Comment expliquer que Victor Hugo soit resté si longtemps sur ces îles, parce qu'après Jersey, il est obligé, pour des petites difficultés avec la couronne britannique, de repartir pour Guernesey. Pourquoi reste-t-il alors même que l'amnistie est générale pour tous les condamnés de 1851-52 et que l'empereur lui fait savoir à plusieurs reprises qu'il aimerait l'avoir à Paris ?
L'amnistie générale, c'est 59. Il y a eu des petites amnisties avant, mais il fallait déclarer à la police, il fallait faire amende honorable. Mais la vraie coupure, la vraie cassure, c'est 59 où l'amnistie est générale. Et alors là, il refuse évidemment de façon très hautaine de rentrer, évidemment, puisqu'il ne donne pas le droit à l'usurpateur de lui donner le droit d'amnistie. C'est pas possible.
À ego et demi, si je puis dire.
Non, mais voilà, c'est quand même assez. Non, mais il avait quand même écrit dès 53, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là.
Et, voilà.
Et effectivement, il va presque rester le seul, puisque à partir de 59, presque tout le monde rentre, beaucoup en tout cas, quelques-uns restent en exil, évidemment, mais beaucoup, beaucoup rentrent. Et donc, quand il se retrouve tout seul en 59 à Guernesey, quasiment, c'est à ce moment-là, à peu près, quelques mois après, qu'il va ressortir le manuscrit de ce roman qu'il avait déjà bien avancé. Il en avait déjà écrit les deux tiers avant l'exil. Il va ressortir enfin le manuscrit des Misérables, de ce qui va devenir Les Misérables. Donc après, justement, cet exil. Après cet exil officiel qui devient un exil volontaire. Voilà.
Il y a d'ailleurs, alors évidemment, les romans, et ceux de Hugo comme les autres, sont peuplés d'expériences autobiographique, mais il y a cette nouvelle terrible qu'apprend Jean Valjean et qui ressemble beaucoup à celle qu'avait apprise le père Hugo au moment de la mort de sa fille.
Du mariage de sa fille aussi.
Et oui, aussi, d'ailleurs, il y a ça aussi. Oui,
oui. Le roman est truffé d'indices plus ou moins évidents autobiographiques. Les Misérables, j'ai dit que Les Contemplations, c'était la grande œuvre poétique de Victor Hugo. Les Misérables, c'est sa grande œuvre romanesque. Toute sa vie est dans Les Misérables, d'une façon ou d'une autre. Donc, célébrer, comme on va le faire cette année, le 150e anniversaire de la publication des Misérables, c'est célébrer Victor Hugo. Oui.
Finalement, cet exil aura été tout à fait propice à la création de Victor Hugo. Est-ce que, quelque part et inconsciemment, il n'y restait pas parce qu'il savait que c'était bon pour son œuvre?
Il s'est très vite rendu compte que c'était une chance inouïe qu'il avait eue. Ses grands contemporains sont tous morts vers le milieu du siècle. Lui, il a ressuscité, pour ainsi dire, en arrivant en exil. Donc, il en a eu très vite conscience. Un des personnages, un des interlocuteurs principaux de la table, c'est un animal qui s'appelle le lion d'Androclès. Oui. Et le lion d'Androclès, c'est l'incarnation de l'exil. C'est celui qui devait être mauvais et qui, finalement, est devenu bon. Et voilà, c'est l'exil, et donc il parle avec son exil, avec ce lion d'Androclès. Et bien sûr, ça a été une formidable chance pour lui, mais ça, il en a eu très vite conscience. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en a pas souffert, évidemment.
Évidemment, c'était ambivalent comme situation. Mmh. On peut dire que Victor Hugo est sorti transformé de l'expérience des tables parlantes de Jersey, et qu'il est rentré grandi de ce très long exil dans les îles anglo-normandes. Lorsqu'après la chute du Second Empire, il arrive à Paris, c'est un véritable triomphe pour lui.
Oui, bien sûr, là, il avait capitalisé, il pouvait pas le savoir. Il pensait, à un moment, il a même pensé souvent qu'il allait mourir en exil, hein, qu'il reverrait pas
sa femme est morte en 69, juste avant.
Sa femme est morte en exil, exactement. Bon, il ne peut pas la raccompagner il la raccompagne que jusqu'à la frontière. Lui-même pensait aussi finir comme cela. Et bon, l'histoire a été merveilleuse pour lui, puisque évidemment, quand il arrive en 70, le lendemain de la déclaration de la Troisième République, donc le 5 septembre, il arrive à Paris, c'est une gloire
qui l'attend.
Ce qui ne veut pas dire que les années suivantes ne vont pas être difficiles. Avec l'année terrible, c'est encore très compliqué.
Expliquer en deux mots, que se passe-t-il? On croit qu'il rentre définitivement, eh bien non en fait.
Oui, on croit qu'il rentre définitivement, mais il se passe toutes sortes de choses. Il est réélu député, mais il est obligé de démissionner par soutien et par amitié pour Garibaldi. Son fils meurt, il s'en va en Belgique pour régler la succession de Charles, justement, pendant que la Commune de Paris... explose à Paris, et donc il va la suivre de loin, il va prendre parti pour les communards, du moins après la Commune, en tous les cas contre la poursuite dans son objet des communards, et du coup il va les inviter chez lui à Bruxelles, du coup il va se faire expulser de Belgique à nouveau, il va repartir au Luxembourg et puis il va revenir encore à Paris. Mais en fait, il faudra attendre que la Troisième République soit consolidée, c'est-à-dire 1877, donc encore plusieurs années, pour qu'il ait ce statut reconnu par tous. Mais ce n'est pas du tout donné dans les premières années de retour de l'exil encore.
Il deviendra plus tard une légende vivante.
On peut dire à partir de 77, après le coup d'État raté de MacMahon, là, à partir de là, oui, c'est bon. Mais avant...
On écrivait à M. Victor Hugo en son avenue, puisqu'on avait rebaptisé...
Pour voir que les phénomènes, c'était le sujet, les phénomènes spirites l'ont intéressé toute sa vie après cet épisode. Là, je disais hier, j'ai noté son carnet en 74, cet épisode, c'est assez amusant. Donc en 13 septembre 1874, après dîner, écrit-il, est venu un jeune Américain accompagné d'un Anglais spirite qui dit avoir vu les êtres inconnus, leur avoir pris la main et leur avoir parlé. Il a donné à l'un d'eux une rose. L'être a pris la rose dans sa main puis s'est évanoui avec la rose. Il assure avoir vu cela plusieurs fois. Voilà une notation dans le carnet de Victor Hugo pour montrer qu'il continuait, de même qu'il s'était intéressé avant l'exil aux magiciens, aux disciples de Mesmer. Il continue, bien après l'exil encore, à s'intéresser à ces phénomènes.
Il y a chez Victor Hugo de tout temps une vraie fascination pour l'indicible, l'occulte, le difficilement cernable, d'une façon plus générale pour la spiritualité. Cet homme pas très religieux est intensément spirituel.
Intensément spirituel, oui, il est devenu violemment anticlérical au moment du coup d'État du Second Empire, puisque l'Église a tout de suite pris le parti de Napoléon III. Et donc, il est devenu farouchement anticlérical. Mais enfin, Les Misérables s'ouvrent par la figure de cet évêque, Monseigneur Bienvenu, qui est un véritable évêque, et qui est un évêque qui incarne
ça,
le Christ.
Ça, pour les républicains,
finalement.
C'est difficile à comprendre.
Et voilà, ça a été difficile, là aussi, ça a été difficile à recevoir, et il a déçu du moins dans la publication des premiers tomes, il a déçu dans son propre avec cette figure d'évêque idéal. Mais toujours est-il qu'il était un esprit profondément, profondément croyant. Ça, c'est tout le prouve.
Et quasiment prophétique. République universelle, tu n'es encore que l'étincelle. Il y a quelque chose de prophétique dans le vieux Hugo.
Oui, oui, l'idée que les tables l'ont aidé à gagner cette dimension-là, moi je dis que c'est plutôt l'exil en général, mais les tables en particulier, c'est vrai, cette dimension prophétique, il l'a atteinte, et puis universelle aussi d'ailleurs, il l'a atteinte pendant cette période incroyable de l'exil.
Jean-Marc Ovas, Victor Hugo, c'est une somme magnifique publiée chez Fayard, donc en 3 tomes, les 2 premiers sont déjà parus, et le 3e est à venir assez vite, et puis l'Europe des esprits ou la fascination de l'occulte 1750-1950, c'est donc le catalogue de cette exposition que vous pouvez visiter au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg jusqu'au 12 février prochain. Je suis content qu'on ait pu parler de ce phénomène de table tournante sans tomber dans le côté un peu
figlo-glinglo.
Finalement, on peut dire que Victor Hugo mène à tout et qu'il nous permet même de parler de sujets parfois très compliqués, sans dérailler, je crois. Enfin, c'est toujours un bonheur de passer du moment en sa compagnie. C'est le moment, je crois, d'aller rouvrir Les Misérables pour ce 150e anniversaire. Ce sont de très belles heures de lecture en perspective. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck. Alors c'est aussi le moment d'apprécier le temps présent. Vous qui êtes toujours plongé dans les histoires du passé, Franck, je vous invite à être là, ici et maintenant,
bravo,
tous ensemble, à apprécier les quelques instants que nous allons vivre avec les experts, puisque nous allons nous intéresser finalement à ça, à ces instants qui nous donnent un petit peu de bonheur et qu'on laisse parfois filer.
Mais c'est pas qu'ils nous donnent un petit peu de bonheur, c'est que le bonheur ne peut être que
dans
le présent. J'en suis convaincu. Merci.
Eh bien, on en parle et on attend vos appels. 39 21 34 centimes d'euros la minute.
Et Julia, à demain, puisqu'il faut parler un tout petit peu de notre futur aussi.
Exactement, avec plaisir. À demain sur Europa où il est 14h.